Stanislas Veillet, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes le PDG de Biofitis. Nous sommes au large et mid-cap event. Vous rencontrez des investisseurs. Alors, ça a pas été, les derniers mois n'ont pas été faciles pour vous, que ce soit le cours de bourse, que ce soit des sujets AMF par rapport à des retards que vous aviez pu avoir, je dirais, en termes de réalisation, hein, comme que là, vous aviez pu promettre au marché. On est en octobre 2019. Vous tenez la barre malgré tout ça?
Oui, il y a peut-être une tempête boursière, effectivement. Donc, il s'est déclenché déjà l'an dernier. Hein. Ça fait plus d'un an et demi qu'on est dedans sur les biotech, les small caps d'une manière générale, et Biofitis en particulier. Donc, c'est pour ça qu'on avait travaillé depuis un an sur cette cotation en Nasdaq, malheureusement, qui a été reportée. Mais je pense que parmi les small caps, quand même, on peut être fier d'avoir essayé au moins, hein, puisque le marché américain reste le marché de référence dans les biotechnologies.
Mais aujourd'hui, vous pensez que c'est plus lié au marché que bah, ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire au fait que vous n'avez pas pu délivrer comme vous l'aviez prévu initialement. Finalement, ça a pris plus de temps, que vos projets ont pris plus de temps que ce que vous aviez pu dire au marché.
Oui, alors on n'est pas les seuls. Hein. Dans ce cas-là, je pense que la plupart des biotechs ont des retards, on va dire, sur le développement de leurs études cliniques. Hein. Pas parce que le dirigeant ne veut pas ou le directeur médical ne veut pas, mais tout simplement parce qu'on est dans un encadrement réglementaire qui fait que dans des études internationales, évidemment, il y a plusieurs agences. Certains disent oui, d'autres non. Ce qui s'est passé pour l'étude dans la sarcopénie, on peut revenir dessus si vous voulez. Où nous avons eu les autorisations aux États-Unis, mais pas dans un certain nombre de pays européens. On a eu l'autorisation en Belgique, mais pas en France. Et donc il a fallu évidemment réagir à cette contrainte réglementaire.
Oui, ça fait partie justement des questions récurrentes en disant, mais pourquoi ça ne marche pas en France, pour une société française, que ça marche aux États-Unis, en Belgique, ça paraît inconcevable.
Ben, ça marche aux États-Unis, ça marche en Belgique, je pense que si, il faut retenir cela. Et on s'est adapté justement en ouvrant les 22 centres, essentiellement aux États-Unis, quelques centres en Belgique, les pays qui finalement ont évalué le dossier, dans lequel les agences réglementaires ne sont pas connues pour leur laxisme, loin de là, et elles nous ont donné ces autorisations. Donc on s'est adapté, je pense que c'est le propre des biotechnologies de s'adapter, et on a fini d'ouvrir les 22 centres aux États-Unis, ça nous a pris plus de temps. Effectivement, et le dernier centre qui a été ouvert est à Columbia University à New York. Maintenant, on a ce réseau en place, ce qui nous permet d'avancer donc maintenant rapidement dans cette étude clinique dans la sarcopénie.
Oui, parce qu'on suit la société effectivement depuis son introduction en bourse, et je sais que dans nos échanges, à un moment donné, vous aviez dit, voilà, typiquement, on va aller aux États-Unis, c'est les États-Unis, on doit se focaliser là-dessus, compte tenu de ces contraintes qu'on vient de mentionner sur le fait qu'en France, ça n'avance pas.
Alors ça avance en France aussi,
Quand
hein.
même.
Oui, ça avance aussi en France. Maintenant c'est long, c'est tout simplement long, c'est ce que j'ai dit. On lâche pas la France, mais la France, l'agence réglementaire française nous demande des compléments d'information et on a mis un an à les obtenir. Voilà, donc maintenant c'est presque un peu tard dans l'étude dans la sarcopénie phase 2, puisqu'on a constitué le réseau aux États-Unis et en Belgique. Mais c'est pas pour ça que nous n'essayons pas de convaincre l'agence de la sécurité et du potentiel de sarconéose dans la sarcopénie.
On parle de maladie du vieillissement avec vous. Il y a quelques années encore, ce n'était pas une maladie connue, ce n'était pas quelque chose qui, effectivement, était même reconnu, tout simplement. Donc il y a eu aussi tout ce travail. Ça fait partie aussi des difficultés que vous avez eues, c'est-à-dire finalement, vous arriviez sur un terrain vierge.
Oui, je pense que c'est effectivement la difficulté dans cette indication, contrairement à des maladies chroniques connues, le diabète, les maladies cardiaques, ou les recrutements, parce que les patients sont dans les hôpitaux, hein, sont traités, sont diagnostiqués avant. La sarcopénie, il n'y a pas de diagnostic, je dirais, généralisé, on en est loin de là. Et donc, il faut aller chercher les patients dans des centres cliniques qui sont soit des centres de gériatrie, évidemment, mais aussi de rhumato, d'endocrinologie. Qui travaillent dans la sarcopénie à des fins de recherche et pas à des fins de développement de médicaments. Et il y a peu de diagnostics. Donc on a donc pour ça terminé l'étude observationnelle au premier trimestre 2019, qui nous a permis de caractériser la population d'une manière plus précise que l'on cible dans cette étude de phase 2B. Et on a présenté les premiers résultats à ce congrès de gériatrie européen qui a lieu à Cracovie. Et on a pu donc confirmer qu'au bout de 6 mois, les patients perdaient la mobilité, donc mesurée par exemple le test de 400 mètres, qui était un test de marche sur 400 mètres. Et ce qui permet d'envisager donc de bloquer en fait cette perte pendant 6 mois. Ça, c'est une première. Hein, c'est pour la première fois, on a une population dont on voit relativement rapidement, au bout de 6 mois, la dégénérescence de la fonction musculaire. Et donc ce qui permet de le bloquer. Les études antérieures qui avaient été faites par d'autres sociétés, Novartis ou Lilly, on voyait finalement la perte de fonction musculaire au bout de 1 an, 2 ans, qui est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu démontrer l'effet thérapeutique de leur produit.
On parlait du cours de bourse tout à l'heure. Les sujets de financement sont forcément importants quand on descend à ces niveaux-là. Vous en êtes où de ce point de vue-là au mois d'octobre?
Bah, en fait, on a annoncé donc en août, c'est qu'on étendait cette ligne d'obligations convertibles avec Negma à 25 millions. C'est l'étranche de 3 millions et qu'on tirait la première tranche. La dernière position de cash qui était connue était autour de 11 millions d'euros. C'est à la fin du premier trimestre. C'est dans les comptes qui ont servi à l'IPO, hein, dans le F1 ou dans le rapport annuel. Voilà, et on va faire un point à la fin du mois. Donc, on se concentre en fait sur l'avancement de l'étude dans la sarcopénie. C'est absolument ça qui est clé et vital pour la société, de telle manière à terminer le recrutement début du premier trimestre. Et l'autre concentration, on va dire, c'est l'obtention des autorisations pour démarrer l'étude dans la myopathie du chêne, l'étude Mioda.
Donc, je dirais, malgré ces tempêtes que vous avez traversées, Biofitis a encore de l'avenir.
Bien sûr, je pense que c'est toujours, je dirais, quand on est pionnier, quand on est un peu trop en avance de vague, eh bien, évidemment, on risque de ne pas prendre la vague. Donc il faut qu'on attende que la vague sur les maladies du vieillissement arrive. C'est un frémissement, hein, aux États-Unis, avec plusieurs sociétés cotées qui travaillent sur la science du vieillissement. Regardez la capitalisation, par exemple, de Unity Biotechnology, une société qui s'est introduite en bourse l'an dernier, qui vaut plusieurs centaines de millions d'euros et qui développe un produit dans l'arthrose. Donc on est vraiment, je dirais, bien, bien positionné sur ces maladies liées à l'âge, malheureusement mal valorisé encore sur le marché Euronext.
Merci beaucoup, Stanislas Veillet, d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci.